d'Ouïman.
Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Des agriculteurs ayant vendu du maïs à l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire ont fait un sit-in ce mardi matin devant les bureaux de cette agence et c'était pour réclamer leur argent pour les ventes faites cette année. Environ 4000 personnes réclament la restitution de leur argent placé dans la microfinance Inesiwachu, dont l'agrément a été retiré par la Banque centrale pour fausse déclaration. On fera le point dans ce journal. Et plus d'une centaine de membres du personnel de la direction provinciale de l'ex-province Ngozi ne sont plus au service depuis le début du mois de juin 2025. 30 sont des départs à des destinations inconnues, tandis que d'autres ont été nommés à d'autres fonctions dans l'administration et territoriale. Notre correspondant nous donnera les détails. Voilà pour le sommaire.
Captez Isanganiro, écoutez la différence.
Environ 4000 personnes réclament leurs capitaux placés dans la microfinance Inesiwachu, volatilisée depuis le mois de juillet 2024. Ils souhaitent l'intervention du chef de l'État, qui d'ailleurs avait instruit au mois de décembre dernier le directeur général de l'Agence nationale de promotion et de la régulation des sociétés coopératives au Burundi à traiter cette question. Ils estiment qu'ils ne sont pas satisfaits du traitement qu'Evrard Ndayike réserve à ce dossier. Suivez un déplaceur.
Nous sommes plus de 4000 habitants ayant investi des capitaux dans la coopérative Copedei qui opère dans la zone Kinama, commune Nahangwa. Cet investissement est le fruit d'un accord signé avec son propriétaire, M. Egide. Nous avons également été motivés par les projets qui nous ont été présentés car, comme tant d'autres, nous aspirons à atteindre un développement durable. De plus, nous avons constaté que cette coopérative jouissait d'un agrément de la Banque de la République depuis 2019, ce qui renforçait notre confiance. Cependant, depuis juillet 2024, la situation a changé. Nous n'avions plus percé de bénéfices ni retrouvé nos capitaux. Face à cette situation, nous avons exprimé notre doléance auprès de son excellence lors de l'émission publique de fin d'année. En réponse, il a nommé le président de l'ANACOP pour traiter cette question en urgence afin que la population puisse récupérer ses fonds. À ce jour, aucune action n'a été entreprise. Nous n'avons reçu aucun appel, aucune réunion n'a été organisée et aucune communication de soutien ne nous est parvenue. Cette situation devient de plus en plus difficile car cet argent provenait des dettes contractées et les banques commencent à nous menacer d'arrestation en raison de ces employés. Ce qui nous révolte encore plus, c'est que les entreprises de M. Egide continuent de fonctionner normalement alors même que les fonds investis sont les nôtres. Nous avons même appris qu'il occupe un poste au sein du bureau de renseignement. Nous faisons donc appel au président pour qu'il nous vienne en aide et qu'il prenne en compte la correspondance que nous lui avons envoyée. Nous nous trouvons dans une situation où nous ne voyons aucune issue, ni devant, ni derrière.
À ce sujet, le directeur général de l'Agence nationale de régulation et de promotion des sociétés coopératives au Burundi, ANACOP, répond que le dit remboursement de ses placeurs de capitaux atteint le stade de la vente des garanties fournies par son représentant dans les banques commerciales. Evrard Ndayikeje reconnaît cependant que le défi persiste au niveau des banques détentrices de ces garanties qui ne l'ont pas encore cédé. Cela étant, il explique que les enquêtes faites révèlent que cette microfinance rentre dans les attributions de la Banque centrale, précisant en outre que ses placeurs réclament environ 50 milliards de francs burundais. On l'écoute.
Avec ce comité qui représente les placeurs, nous avons trouvé plus de 3 000 personnes qui ont déposé de l'argent. Et nous avons trouvé de l'argent au total 49 675 985 035 francs burundais. Mais dans cette réunion, Egide a parlé que c'est seulement 16 milliards. Ça nous a demandé, la force de savoir combien de personnes et aussi de savoir le montant global que Egide pouvait donner à ses placeurs. Au mois de janvier, au mois de février, on avait l'espoir que le problème va être résolu. Donc avec les 165 qui ont eu de l'argent, nous, On sachait qu'on va continuer dans cette bonne manière. Mais après, c'est là où nous avons vu que même lui, c'est de l'argent seulement qu'il a donné, il n'y a plus d'autre argent. Nous avons aussi visité là où se trouvent les usines, là où se trouvent les parcelles, là où se trouvent, je dirais, les ressources pour donner de l'argent aux placeurs. Nous avons même vu qu'il y a des titres qui sont dans les banques, parce qu'il y a de l'argent qui a demandé aux deux banques. Après ça, les banques ont dit non, nous ne pouvons pas donner des titres sans toutefois payer le montant que Gide aurait donné. Après avoir été bloqué par les banques qui ont des titres, donc nous avons fait des visites avec même des gens, je dirais, qui pouvaient acheter, mais avec le blocage des titres, ça a été difficile. Le 18 avril, nous avons fait, je dirais, le rapport final pour montrer ce que nous avons réalisé. Et aussi, nous avons donné les recommandations, bien les avis, qu'est-ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, nous sommes dans la dernière étape. La dernière étape de vendre les biens d'Égide pour donner de l'argent aux placeurs. Et aussi, à part de ça, nous avons vu qu'il y a même d'autres, je dirais, coopératives qui font de la même façon. Et aussi, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des membres qui ne sont pas acceptés par la Banque centrale. Pourquoi ? Parce qu'il y a la Banque centrale qui dit, nous acceptons seulement les gens qui ont des comptes à Inesa Microfinance. Mais nous, dans les enquêtes que nous avons faites, nous avons vu que membres de la coopérative CoPDI et aussi membres Inesa Microfinance. Subdiviser les gens comme ça, ça va aussi nous donner d'autres problèmes.
Vous avez dit que vous avez trouvé d'autres microfinances qui travaillent dans le même sens que la CoPDI. C'est combien?
Nous avons trouvé 4 microfinances qui travaillent de la même façon. Je demande aussi aux gens, avec cette perte que je leur dis, de ne pas continuer à donner de l'argent comme ça. Mais aussi, on ne peut pas parler que ce sont leurs fautes parce qu'eux aussi disent qu'ils voyaient l'autorisation de la Banque centrale. C'est pourquoi ils l'ont fait.
Evrard Ndaïkeje, c'est le directeur général de l'Agence nationale de régulation et de promotion des sociétés coopératives au Burundi, ANACOP. Entre-temps, la Banque centrale, la BRB, avait pourtant autorisé à cette microfinance de fonctionner en août 2019 avant de procéder à son retrait d'agrément le 23 janvier 2025. La BRB a motivé ce retrait notamment par la transmission de fausses informations lors de la demande d'agrément. Interrogé par la rédaction Isanganiro, certains habitants de Mubone dans la zone Buterere en province de Bujumbura dénoncent des cas de malversation au sein de certaines associations d'épargne et de crédit. Reconnaissant que ces organisations leur apportent certains avantages, ils estiment cependant que leurs initiateurs devraient mieux s'organiser afin d'éviter les irrégularités constatées et qui poussent les gens à abandonner ce genre de coopérative. Suivez son micro-baladeur de la rédaction Isanganiro.
Les associations nous sont utiles. Parfois, elles peuvent vous prêter de l'argent. Mais aujourd'hui, il arrive qu'on adhère à une association et que notre argent y soit bloqué. Beaucoup d'entre nous ont abandonné les associations à cause de cela. Aujourd'hui, je rejoindrai une association à condition qu'elle accepte de venir réellement en aide.
Participer à une association d'épargne et de crédit est très bénéfique pour tout individu, que ce soit en matière de développement familial. Mais les problèmes existent. Parfois, vous épargnez dans une association pensant que vous allez gagner quelque chose. Puis, on vous dit que la microfinance est tombée en faillite. On vous demande alors d'attendre. Et l'attente dure jusqu'à ce que vous abandonniez.
Intégrer une association est une bonne chose. Cela nous aide beaucoup quand nous avons un problème quelconque. Mais cela dépend des membres. Un membre peut prendre un prêt de 100 000 ou 200 000 francs puis ne pas le rembourser, ce qui pénalise les autres qui épargnaient en espérant avoir des bénéfices. Ils se plaignaient et les membres cessent de s'y intéresser.
D'accord. Pour que les gens reprennent confiance dans les associations, il faut que leurs membres évitent l'hypocrisie. Quand quelqu'un prend un prêt, il doit le rembourser. C'est ainsi que la confiance se crée entre les membres et qu'ils peuvent collaborer.
Je vois que ceux qui mettent en place des capitaux en collaboration avec la Banque de la République du Burundi devraient veiller à ce que la population ne continue pas à se faire voler ou se lamenter de pertes subies dans ces associations de microfinance.
Et pour un expert en management des organisations, la mise en place des textes régissant les groupements communautaires financiers, le renforcement du contrôle interne sont quelques voies d'éviter les détournements des épargnes dans ces groupements. Diomède Ninheretse suggère que la Banque centrale suive de près ces groupements vu leur importance dans le développement et l'inclusion financière. Suivez-le.
D'abord, il faut dire que le groupement d'épargne au Burundi fait partie d'un grand programme d'inclusion financière. Aujourd'hui, si ces groupements sont menacés par la mauvaise gestion des vols, il faut absolument analyser la cause et surtout apporter des solutions bien adaptées. Il faut aussi retenir que la transparence construit la confiance et que la confiance aussi bâtit la communauté. Alors, depuis des dizaines d'années, des milliers de groupements, en particulier un millier rural, se regroupent pour créer des caisses d'épargne et de crédit informelles, souvent appelées tontines ou vislay. Ces groupements ont permis à de nombreuses familles de financer la scolarité de leurs enfants, de lancer des petits commerces ou encore de faire face à des exigences médicales. Mais aujourd'hui, un constat très alarmant, si vous voulez, ces groupements font face à une crise très silencieuse, marquée par des difficultés de gestion, des conflits internes et surtout des cas fréquents de vol ou de détournement de fonds. Et c'est à l'autorité politique financière à pouvoir adapter et trouver des solutions à ces problèmes. D'abord, il faut dire qu'il y a une crise d'une gestion peu professionnelle. La seconde observation, c'est une absence claire de textes. Voilà, peu de groupements disposent de statuts écrits ou de même de règlements intérieurs. Tout repose souvent sur la confiance, ce qui devient dangereux. Alors, quelle est la menace? La menace, c'est les membres de ces groupements perdent la confiance et quittent les groupes. Et ce n'est pas une bonne chose. Les remboursements diminuent. Mettre en place des logiciels clairs et accessibles à tous les membres. Autrement dit, pour qu'il y ait une gestion commune, mais il faut qu'il y ait d'abord cette formation. Deuxième chose qu'il faut faire, c'est plutôt renforcer la transparence. Il faut essayer aussi de penser comment sécuriser ces fonds. Aujourd'hui, je crois qu'il faut des mesures claires et surtout la BRB devrait s'impliquer parce que ça fait aussi objet de son rôle.
Isanganiro, la radio de l'avenir.
Les agriculteurs ayant vendu du maïs à l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire ont fait un sit-in ce mardi matin devant les bureaux de cette structure pour réclamer leur argent. Ils sont originaires de la zone Nyabikere en commune Chombo de la province Gitega. Le directeur général de la Nagesa promet de les régulariser avant la fin de cette semaine et reconnaît certains défis qui sont à l'origine de ce retard de paiement, comme de fausses adresses de paiement. Correspondance Gérard Nibigira.
Ils étaient au nombre de 8 agriculteurs qui ont fait un sit-in au bureau de la Nagesa pour réclamer leur argent lié à la vente du maïs à la Nagesa pour cette année 2025. Ils disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi d'autres cultivateurs du maïs ont été payés alors que eux non. Ainsi, ils précisent que les conséquences de cela sont énormes, comme le problème d'envoyer leurs enfants à l'école, celui d'acheter des intrants agricoles liés à la plantation du maïs pour cette saison culturelle et d'autres. D'où donc, ils demandent qu'ils soient rétablis dans leurs droits. À propos, le directeur général de la Nagesa, Witegimana Olivier, indique qu'avant la fin de cette semaine, ils seront régularisés.
Il y a déjà vraiment qui n'ont pas perçu leur argent, mais maintenant, on est en train de faire le tout possible pour que cette semaine, tous les producteurs qui ont vendu le maïs perçoivent leur argent. Je donne le mot d'espérance que dans cette semaine, ce problème lié au non-paiement des producteurs sera réglé.
Ici, il énumère certains problèmes qui sont à l'origine de ce retard de paiement.
Il y a eu des problèmes qui s'est manifesté. Par exemple, les producteurs qui ont donné les noms des comptes dont ils ne sont pas propriétaires. Il y a des producteurs qui ont donné les noms des microfinances non enregistrées à la BRB. Il y a ceux qui ont donné aussi les numéros Limicash dont ils ne sont pas propriétaires de ces numéros. Il y a également des collecteurs de certaines zones qui n'ont pas donné les listes validées des producteurs. On a observé tous ces cas. Mais on est en train de corriger ces erreurs qui se sont manifestées.
Toutefois, il souligne qu'environ 95% de ceux qui ont vendu le maïs à la Nagessa ont déjà été payés.
Même s'il y a des problèmes, je peux vous signaler que nous avons 15 179 producteurs qui ont vendu le maïs. Parmi eux, on a déjà déposé l'argent au niveau de la BRB pour les producteurs qui avoisinent aux 14 805. Alors, si on estime un pourcentage, on a déjà payé 95%.
Vous saurez que le directeur général de la Nagessa s'est par après entretenu avec ses cultivateurs du maïs qui avaient fait un sit-in devant son bureau et qui sont originaires de la zone Nyabikere, commune Chombo, province Gitega. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio-télévision Isanganiro.
Alors,
138 membres du personnel de la direction provinciale de l'ex-province Ngozi ne sont plus au service depuis le début du mois de juin 2025. Selon différents rapports, 30 sont des départs inconnus, d'autres sont 30 sont des départs à des destinations inconnues, d'autres sont des nominations vers le ministère de l'Intérieur, précisément au niveau des communes et zones suite au nouveau découpage administratif au Burundi. Certains directeurs des écoles concernées par ces départs disent avoir des difficultés dans leurs enseignements car ces départs n'ont pas été remplacés. Apollinaire Muzagara.
Comme annoncé dans les différentes réunions, 30 de ces enseignants sont des déserteurs dont leur destination reste inconnue. Les différents responsables de service à la direction provinciale de l'éducation en Ngozi ne veulent pas s'exprimer sur ces départs, arguant que seul le DPE en a le droit. Ce dernier a été nommé administrateur de la commune Tangar. Pourtant, les informations émanant de la même DPE Ngozi indiquent que bon nombre de ces enseignants sont partis vers Dubaï, Malawi, Zambie et ailleurs. Avant de partir, ces éducateurs ont contracté des crédits qui ne sont pas en train d'être remboursés pour le moment, comme le confirme certains représentants des enseignants FLE et FEST Ngozi. Le DPE Ngozi compte 108 départs. La DPE Ngozi compte 108 départs vers l'administration territoriale, plus précisément dans les communes et zones. Parmi ces derniers, le DPE Ngozi, qui vient d'être remplacé par Leocadie Mukaporona, nommé DPE Butanyerere. Lors de l'ouverture de l'année scolaire en cours, le gouverneur de Butanyerere a parlé de plus de 300 enseignants de Butanyerere qui sont allés dans ces communes et zones dans l'administration. Les directeurs des parents des élèves qui ont enregistré ce départ demande aux autorités habilitées le remplacement de ces départs en vue d'occuper les élèves qui, pour le moment, n'ont pas d'enseigne. Donc, Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro.
En bref, et on reste en Ngozi, le tribunal de grande instance de Ngozi vient de maintenir en détention préventive la journaliste Sandra Muhoza. Décision sortie ce 14 février 2025. En attendant, selon ce tribunal, d'entrer dans le fond de ce dossier. Lors de l'audience publique du 7 octobre dernier, les avocats de sa défense ont insisté sur les irrégularités qui ont émaillé ce dossier, dont la comparution de Sandra Muhoza devant le tribunal de grande instance de Ngozi, sans être entendue par le parquet de la République en Ngozi et autres. Ce qui a poussé le tribunal de grande instance à mettre en délibéré ce dossier pour statuer sur sa détention. Cette journaliste du journal La Nova est accusée d'atteinte à l'intégrité territoriale et d'aversion raciale. La cour d'appel de Bujumbura, mairie, s'est déclarée incompétente pour juger cette affaire et l'a renvoyée au tribunal de grande instance de Ngozi. Elle est sous les verrous depuis avril 2024. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.